France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Olivier Tesquier.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Télérama, vous êtes spécialiste de bien des choses, mais essentiellement de ce qu'on appelle le numérique, même si c'est toujours une case un peu vague. Vous avez un excellent blog qui s'appelle Boîte Noire, et on va revenir avec vous dans cette séquence spéciale un an donc de présidence à Trump sur l'une des décisions, l'un des signes politiques en tout cas majeurs envoyés par Donald Trump et son administration dans le domaine stratégique du numérique, à savoir sa volonté d'en finir avec ce qu'on appelle la neutralité du web, règles, paradigmes de base longtemps non écrit qui existe depuis les débuts d'Internet, sanctuarisé par son prédécesseur Barack Obama et qu'il a souhaité remettre en cause. Alors on va quand même revenir, pour ceux qui ignorent, même malgré le fait qu'on en a souvent parlé ici sur Softpower, sur ce principe de la neutralité du web. Est-ce qu'on peut, puisqu'on le vit sans même le savoir, qu'est-ce que c'est que ce principe de la neutralité du web?
Alors c'est vrai que c'est important de signaler qu'on est tous concernés par la neutralité du net. J'utilise toujours la même métaphore, je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs, c'est une métaphore assez parlante. Faut imaginer que le trafic sur Internet, ce serait comme une espèce de grande autoroute. Et sur cette autoroute, toutes les voitures sont censées circuler à la même vitesse. C'est-à-dire que toutes les informations sont censées nous parvenir dans les mêmes conditions, sans qu'il y ait de discrimination sur les paquets de contenu, comme on les appelle. Et la fin de la neutralité, en fait, ça signifie qu'on crée deux voies bien distinctes. On aurait d'un côté des grosses berlines qui ont de l'argent et qui peuvent rouler plus vite, c'est-à-dire qui peuvent acheminer leurs informations plus rapidement. Et puis d'autres voies plus embouteillées avec des petites berlines qui, elles, n'ont pas les moyens de payer pour cet accès prioritaire et qui seraient du coup un Internet à deux vitesses.
Alors justement, ceux qui évidemment penchent, en tout cas militent, et ce depuis très longtemps, pour arriver à cette solution à deux voies ou à plusieurs voies, c'est-à-dire pour qu'on mette fin à cette neutralité du web, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui dépensent de l'argent, investissent pour développer le réseau, évidemment. Ils militent pour cela aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou qu'en France, hein, puisque c'est dans leur intérêt, puisque ce sont eux qui aujourd'hui... en tout cas, subissent les frais de ces fameuses bandes passantes. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que Barack Obama, qui a réussi dans un premier temps à contraindre un petit peu, hein, à l'époque, cette Commission fédérale des communications, elle avait été contrainte d'accepter des règles écrites qui garantissaient cette neutralité du web. Entre-temps, évidemment, l'administration a en partie changé. Qu'est-ce qui, chez Donald Trump, ou en tout cas chez les conservateurs, faisait qu'on penche pour la fin de cette neutralité du web?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà eu une bataille très politique au moment des décisions d'Obama sur justement la sanctuarisation de la neutralité. Il y avait eu pas mal d'accusations, notamment de la part des républicains, sur le fait que la Maison Blanche aurait manipulé les membres de la FCC pour obtenir gain de cause, etc. Bon, depuis, il y a eu la publication de documents qui ont montré que finalement, d'ingérence et de manipulation et d'intimidation, il n'y avait pas eu. Mais voilà, c'était un levier politique comme un autre pour justement essayer de montrer que Barack Obama pouvait essayer d'influencer une autorité théoriquement indépendante. Après, effectivement, c'est un vieux cheval de bataille, pas nécessairement des républicains. D'ailleurs, on se rend bien compte que sous nos latitudes, ce genre de problématique caresse des champs politiques relativement larges. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les républicains, peut-être plus que les autres, sont attentifs aux revendications et aux arguments des grands opérateurs télécoms qui dépensent des sommes considérable depuis très longtemps pour faire du lobbying à Washington et ailleurs. Et donc ils sont particulièrement sensibles à leur position et la position des fournisseurs d'accès, encore une fois que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, que ce soit ailleurs dans le monde d'ailleurs, c'est de dire on a des tuyaux, aujourd'hui on a de plus en plus de contenu dans ces tuyaux, donc il faut les élargir, et pour les élargir, ça a un prix. C'est nous qui entretenons l'infrastructure et qui la déployons, donc il va falloir payer plus cher.
Et alors effectivement, vous l'avez dit, donc depuis l'équipe de cette fameuse commission, elle a en partie changé, et elle a voté, donc elle a donné son accord pour faire annuler ces fameuses règles qui avaient été mises en place sous Obama. Alors il faut quand même rappeler que cette neutralité du web qui est terminée n'est pas encore effective, hein. Donc vous l'avez le principal argument de Trump en la matière aujourd'hui, c'est, donc vous l'avez dit, évidemment d'écouter les demandes des fournisseurs d'accès à Internet. C'est aussi dire que c'est bien qu'il y ait moins d'État. Ça fait partie en tout cas de ces idées politiques là. Et c'est aussi de dire, c'est son grand argument, et c'est le grand argument notamment des fournisseurs d'accès à Internet aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui est de dire on va pouvoir innover plus, on va pouvoir développer plus l'Internet puisqu'on aura plus de sous, on sera plus de marge, donc on aura plus de sous pour le faire. Et tout ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous pourrez opposer comme argument à ces arguments-là?
Alors, effectivement, c'est assez drôle d'ailleurs de constater que la semaine du depuis 14 décembre où le vote donc a eu lieu à la FCC pour démanteler la neutralité. Il y a une photo qui a été publiée où on voit Donald Trump dans un bureau avec des liasses, des montagnes de papier, et lui avec une grande paire de ciseaux. Et ces liasses de papier sont censées symboliser l'empilement de règles qui justement étranglent l'économie américaine. Et évidemment, les règles qui encadrent Internet rentrent tout à fait dans le, on va dire l'idéologie de Trump, entrent totalement dans ces nœuds qui enserrent comme ça et qui bloquent l'économie américaine. Alors effectivement, moi ça me fait toujours rire cet argument de dire ça bloque l'innovation, la neutralité, alors qu'on pourrait opposer l'argument exactement inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans neutralité, le ticket d'entrée est considérablement rehaussé, c'est-à-dire que vous allez avoir des gros opérateurs, je vais prendre Netflix, vraiment au plus grand des hasards, Netflix qui est extrêmement gourmand en bande passante, qui est aussi aujourd'hui le premier, ou qui va devenir le premier producteur audiovisuel au monde, qui a des moyens considérables. Netflix pourra acheminer des contenus de manière prioritaire, ils vont être prêts à faire un chèque. Ça va fixer un tarif qui va être inaccessible pour 99% des autres opérateurs du même type. Donc finalement, on va empêcher des acteurs qui sont d'une taille moindre de pénétrer un marché, de se développer, et on va ne faire que renforcer le pouvoir économique et politique parfois, d'entreprises qui possèdent déjà un pouvoir, on va dire, assez important. Et j'ajoute un petit point là-dessus, c'est que aux États-Unis, peut-être encore plus qu'ailleurs, les fournisseurs d'accès, donc si vous prenez les plus gros, AT&T, Comcast, Verizon, c'est pas seulement des fournisseurs d'accès, c'est aussi des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire
oui,
que on est, on va dire, les grands orchestrateurs des tuyaux, c'est nous qui propulsons ce qu'il y a dedans, mais on met aussi ce qu'il y a dans les tuyaux. Donc évidemment, ils ont un intérêt considérable
à privilégier leur propre contenu,
ce qui est évidemment l'une des craintes dans un Internet où il n'y aurait pas de neutralité.
Alors qu'est-ce qui se passerait si effectivement tout cela venait à voir le jour concrètement ? Est-ce que ce serait, comme vous le dites, essentiellement les plus gros, c'est-à-dire Google, Netflix, etc., qui ont intérêt, qui eux seraient en capacité de payer, qui seraient présents et que les acteurs finalement, les petits acteurs ou les acteurs plus alternatifs, soient moins visibles, qui est aujourd'hui à ce qu'on appelle le dark web, il pourrait y avoir des espèces de grey web auquel on aurait moins accès, ou est-ce que ce serait l'internaute qui finalement serait pénalisé ? Parce que c'est ça la vraie question. On parle aussi d'abonnements qui seraient avec des abonnements de plus en plus chers, avec différentes versions d'Internet auxquelles on aurait accès.
Alors,
ça se jouera dans quel sens ?
J'ai tendance à dire les deux. Les entreprises vont être pénalisées, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas les moyens de payer le jeton pour rentrer vont être pénalisés, parce qu'effectivement ça va rehausser considérablement ce ticket d'entrée, et l'internaute va être évidemment lésé, parce que on a déjà des exemples, par exemple même en France, il y a quelques années, Free bridait le débit de ses abonnés qui voulaient visionner des vidéos sur YouTube le soir, parce qu'il y avait un contentieux financier entre Free et Google, et pour faire pression sur Google dans ce contentieux financier,
qui est propriétaire de YouTube,
Free avait décidé de brider délibérément l'accès à ces vidéos YouTube, pénalisant par là même les utilisateurs. Et de la même façon, on pourrait imaginer que demain, vous allez payer un certain tarif pour avoir une offre Internet, mais sauf que vous aurez une offre Internet dégradée, de base, sur laquelle vous n'aurez pas tous les services. Donc c'est le principe du freemium, en fait, c'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain point. Et si vous voulez avoir une offre de VOD, une offre de je ne sais quel autre service, eh bien, faudra payer davantage. Donc effectivement, le risque pour l'internaute, il est double. C'est déjà de voir certains contenus potentiellement disparaître, parce qu'il y a des choses ne seront plus aussi visibles qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque toutes les informations ne seront plus acheminées selon les mêmes règles. Et puis, il y aura un poids financier à payer dans un Internet sans neutralité.
Dernière question. En Europe, on sait que même si aujourd'hui, paradoxalement, la décision de Donald Trump de revenir sur cette neutralité du web a donné l'occasion en Europe à quasiment tout le monde plutôt d'être sur une réaction inverse, en réaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'en France, on va préserver, et en Europe, cette neutralité du web, voire la sanctuariser. Mais il y en a certains qui se disent pourquoi cette neutralité du web ne serait pas un moyen aussi pour nous, pauvres Européens, qui sommes assez faibles aujourd'hui face à des gens comme Google, comme Amazon, comme Apple, ce serait pas un moyen finalement de pouvoir avoir un moyen d'action contre eux, ou en tout cas de les faire payer, parce qu'on sait qu'on a du mal à leur faire payer des impôts, c'est-à-dire d'avoir finalement une manière indirecte de les taxer, d'essayer de freiner un peu le jeu et de pouvoir peut-être imposer nos propres acteurs européens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est pas aussi, mine de rien, une occasion de lutter contre des entreprises qui sont aujourd'hui en situation de monopole et qui sont à 99% américaines?
Alors, je sais qu'au niveau européen, effectivement, on a toujours plein d'idées dans la boîte à idées pour essayer de trouver une solution, pour lutter contre le poids considérable des multinationales du numérique, trouver un moyen de les taxer d'une façon X ou Y. Alors, attention quand même aux effets secondaires de ce type de traitement, dans la mesure où, prenons l'exemple de Google, Google aujourd'hui maîtrise 95 ou 98% de la recherche en Europe. C'est un poids culturel, économique, sociétal considérable. Si demain, vous rehaussez le ticket d'entrée, encore une fois, si vous dites, bon, bah, Google, ok, si vous voulez accéder au marché européen, vous allez devoir payer plus cher. Bah, Google va payer plus cher. C'est-à-dire que il pourrait effectivement, après parlementer, il pourrait refuser ces règles-là, parce que de toute façon, ils ont une emprise sur le marché qui est telle que ces effets, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que soit vous démantelez complètement Google, enfin, ce qui est l'argument d'ailleurs d'un Sébastien Soriano, qui est le patron de l'ARCEP, le gendarme des télécoms français, il dit il faut démanteler Google. Bon, bah, démantelons Google. Mais en tout cas, essayer de leur imposer des règles différenciées d'entrée sur le marché en imaginant que ça pourra ébranler les monopoles qu'ils entretiennent, ça me semble assez optimiste, on va dire.